Donc, vous avez vu le titre de notre cours de ce soir qui s'appelle « La femme d'On et la femme de Korach ». Et en fait, ce cours va porter sur la paracha de notre semaine, sur la paracha de la semaine qui est la paracha de Korach, où on a deux héroïnes. On en a même d'autres, en fait, en filigrane, mais ce sont deux personnages qui sont absolument pas évoqués dans la paracha, mais pourtant qui sont considérés comme des personnages centraux. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur elles, parce que on a beaucoup évoqué l'évolution et la montée de la féminité. Et on a vu les femmes dans l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde, en vérité, jusqu'au moment où on en est là dans le désert, et même plus tard, elles apparaissent toujours dans les moments charnières, au moment où on est dans des transitions de l'histoire. Et c'est elles qui vont faire en sorte d'infléchir le cours de l'histoire dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire. Et on a un petit peu essayé d'analyser ça en voyant comment Sarah est arrivée et a fait en sorte que Abraham choisisse le bon héritier parce qu'elle avait une vision d'histoire, elle est au-dessus. Les femmes sont capables d'avoir une sorte de zoom out et d'avoir une vision d'ensemble et de réfléchir à long terme. Et c'est pour ça que les femmes aussi ne se laissent pas complètement déprimées par l'esclavage égyptien et qu'elles sont capables de rester fidèles à la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui a été faite depuis très longtemps. Et donc de savoir que la vie ne s'arrête pas en Égypte, que leur destin ne s'arrête pas en Égypte, mais qu'il faut penser plus loin. Et donc ça leur donne la force de combattre, ça donne la force de tenir et de garder espoir malgré toutes les difficultés. Mais là, on arrive à un moment très très difficile de l'histoire. On l'a déjà évoqué la semaine dernière, puisqu'on a parlé des explorateurs et on avait posé la question de savoir si ça avait été des exploratrices. Mais bon, l'histoire, c'est que ça a été des explorateurs. Alors même si Hachem dit moi, si c'était moi, j'aurais envoyé des exploratrices. Parce que non seulement elles aiment la terre d'Israël, mais elles ont à cœur d'avoir une part dans la terre d'Israël. Donc pour elles, c'est très important de pouvoir en prendre possession. Elles n'ont pas envie que ça reste juste un rêve, une promesse, une illusion. Mais elles veulent vraiment rentrer en terre d'Israël et commencer à y vivre. Mais on avait vu que c'était justement lié à ce caractère très féminin d'être capable de faire cette jonction entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. Et de ne pas y voir une dichotomie. On n'est pas d'un côté un homme ou une femme proche de Dieu et de l'autre côté proche de la terre. On est tout en même temps. En même temps qu'on cuisine, on est en train de faire un acte de chesed et on est en train de se rapprocher d'Hachem et on est en train d'élever la matérialité vers le spirituel. Donc, la semaine dernière, on avait vu un petit peu ça, mais ce qu'on a vu quand même, c'est qu'on s'arrête sur un constat très très difficile, c'est que le peuple d'Israël va devoir rester encore pendant longtemps dans le désert, pendant 39 ans. Et c'est très difficile, c'est tonitruant, ça s'arrête comme ça. On imagine que tout le monde sort complètement désespéré de cette situation. Et Dieu leur a annoncé que toute cette génération va mourir dans le désert. Donc vous imaginez quand même que c'est un peuple avec des millions d'individus qui sont sans perspective. Ça, c'est très très dur de l'imaginer. C'est-à-dire que ces gens-là sont sortis d'Égypte, ils ont vécu des miracles grandioses, mais désormais, ils vont devoir errer pendant 39 ans encore dans le désert. Et on imagine donc un peuple qui se trouve sans rêve, sans vision, sans but, puisque cette génération va devoir mourir dans le désert. Ils ne savent pas quand ils vont mourir, mais année après année, il y en a un certain nombre qui mourront. Et donc, qu'est-ce que ça peut leur donner comme vie? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 39 ans? On va rester comme ça, à tourner en rond, c'est le cas de le dire. Et quel est le but? Qu'est-ce qui nous attend derrière? C'est-à-dire d'avoir une vie sans aucune projection, c'est terrible. Alors vous savez, on a eu un peu cette sensation, je ne sais pas. De manière très atténuée, cette sensation quand on s'est retrouvé dans les confinements très durs, où finalement, on ne nous dit pas quand est-ce qu'on va en sortir, on ne dit pas Si, on ne dit pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. On voit pas de, on n'a pas de vision à long terme. On a l'impression que voilà que ça tourne un petit peu en rond, que les dirigeants ne savent pas nous dire vers où on va. Et puis ce rythme qui est donné par le fait de pouvoir sortir, de pouvoir rendre visite à des personnes qui nous sont chères, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir des vacances, etc. Ce qui nous fait tenir en fait. Dans la routine, dans le quotidien, et ben tout ça, quand c'est pas là, ben ça peut, on peut tomber très vite dans un marasme, dans un désespoir. Et en fait, quand on est sans vision, sans projection, sans espoir, eh bien il y a une sorte de marasme qui s'installe, mais aussi d'ennui. Quel est le but? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous enthousiasme? C'est très difficile, vous voyez. Donc, le peuple se retrouve un peu dans une sorte de down, vous voyez. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, il n'y a pas de perspective. On va rester dans le désert encore pendant très longtemps. Et là, c'est un petit peu comme une cocotte minute. À ce moment-là, dans une sorte de désœuvrement, de désespoir, eh bien, la seule chose qui reste à faire... Bah, c'est de se disputer entre nous. C'est tous les ingrédients pour la révolte, pour la rébellion, pour la négativité, pour la jalousie, l'envie, la destruction. Tout est réuni pour que ça explose. Et malheureusement, ça va exploser. Malheureusement, dans notre paracha, ça va exploser. En fait, il y a une sorte de, si vous voulez, ce qui aurait peut-être permis à cette génération de surmonter cette difficulté, c'est d'avoir une conscience multigénérationnelle de leur histoire, en se disant, même si nous, on ne va pas pouvoir entrer en Eretz Israël, notre descendance pourra le faire. Donc, d'ailleurs, c'est cette conscience multigénérationnelle de l'histoire, elle a été bien ancrée en nous, le peuple juif. Si pendant 2000 ans, on a tenu en disant tous les ans, année après année, l'an prochain à Jérusalem, et que tous les jours, quand on fait notre tfila trois fois par jour, on dit « Vetechezena enenu beshufra letzion berachamim » que nos yeux souhaitent voir quand Dieu reviendra à Sion dans la miséricorde. Vous imaginez bien qu'on a bien intégré cette idée d'une conscience multigénérationnelle de notre destin, et c'est ce qui permet de vivre ces situations intermédiaires avec une perspective future. Parce que une perspective unigénérationnelle, si la vie s'arrête à moi, à ma vie à moi, à ma finitude à moi, eh bien, ça crée une vision qui est beaucoup plus court-termiste finalement et aussi individualiste. Et donc, chacun sa pomme, chacun pour soi. On n'est pas capable de s'élever au-dessus de nos désirs personnels et de nos combats personnels. Donc, notre paracha s'ouvre sur une révolte, sur la révolte d'un homme qui s'appelle Korach. Korach, c'est pas n'importe qui. Korach fait partie de l'élite du peuple d'Israël. Il fait partie d'une des plus grandes familles des Lévim. Il a tout pour être heureux. Absolument tout pour être heureux. Le texte nous dit d'abord qu'il est extrêmement riche. Alors, en français, on dit juif comme... n'importe quoi. On dit riche comme Crésus. Et en hébreu, on dit mammon Korach. D'accord ? C'est riche comme Korach. Non, je sais pas, c'est Crésus, Korach. Ça fait peut-être un peu penser... Il y a peut-être une similitude, mais... Mais en tout cas, Korach était un homme qui était richissime. Il s'était enrichi notamment... Au moment de la sortie d'Égypte, quand, vous savez, tout le monde a été allé emprunter ou prendre des richesses à ses voisins égyptiens, lui en avait pris beaucoup. Et ensuite, au moment de la traversée de la mer Rouge, quand les Égyptiens s'étaient engagés dans la mer avec leurs chevaux qui étaient parés de toutes sortes de bijoux, de parures en or et en pierres précieuses et tout ce que vous voulez, eh bien, une fois que les Égyptiens ont été complètement décimés, la mer a charrié toutes ces richesses, tous ces objets, et les Béné Israël en ont ramassé. Et Korach en avait ramassé beaucoup, il a été très, très, très riche. Alors d'abord, il était très riche et ensuite, il était aussi très érudit. C'était un homme d'une... C'était un homme brillant, c'était un homme qui était très intelligent, c'était un homme qui possédait tout ce qu'on peut vouloir posséder. Et donc, il a tout pour être heureux. Il a tout pour être souriant, pour être content. En plus, on vient de sortir de la période, du moment de l'inauguration du Mishkan. On en a déjà parlé, mais au moment de l'inauguration du Mishkan, il y a eu une cérémonie très importante d'investiture des Lévim. La tribu de Lévi a été officiellement intronisée comme étant celle qui va être au service d'Akadosh Baruch Hu, donc qui va avoir en charge le travail du Mishkan, et aussi de chanter dans le Mishkan, de chanter plus tard dans le Beth Amikdash. Les Lévim ne vont pas hériter d'une part dans la terre d'Israël, mais ils vont avoir plusieurs villes à disposition. Et puis, ils ont des cadeaux que les Béné Israël doivent leur donner, en fait, des dons qui leur reviennent. Et puis, surtout, ils ont une proximité avec la sainteté qui est particulière. Korach fait partie d'une des familles de Lévi. Il vient d'une autre branche que celle de la famille de Moshe et de Aaron, mais c'est quand même, il fait partie de l'élite de l'élite. Donc, que peut bien vouloir quelqu'un qui a la richesse, quelqu'un qui a l'intelligence, quelqu'un qui a réalisé des choses, quelqu'un qui a été intronisé, qui a été tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut après ça? On veut les charges les plus suprêmes. C'est-à-dire que l'homme est insatiable. Il est au-dessus, il est au niveau le plus élevé, mais il y a quelqu'un, il y a une famille qui est encore plus honorée, qui a des charges plus importantes que la sienne, que lui. Et donc ça passe pas. Ça passe pas. Il peut pas être heureux. Voilà, c'est la fameuse Mishnah de Pirkei Avot qui dit « Ezehu Ashir ». À sa mère Bechelko. Qui est celui qui est riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il possède, de ce qu'il a, de sa part à lui. Le problème de Korach, c'est qu'il est très riche, mais il ne se sent pas riche. Il ne se sent pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas sa part à lui, il veut la part de l'autre. Une fois qu'on est Korach, qu'est-ce qu'on rêve d'être? Eh bien, on rêve d'être Moshe ou Aaron. Et là, il n'était pas tranquille. En fait, il n'était pas tranquille que Aaron ait pris. Et eu le statut de Cohen. Il dit ok, on est tous de la même famille, on est descendants de Lévi. Moshe prend la direction du peuple d'Israël, il est comme le roi du peuple d'Israël. Eh bien, pourquoi c'est son frère qui devient le prêtre, le grand prêtre? Pourquoi ça lui revient à lui et pas à quelqu'un d'autre de la famille? Et quelqu'un d'autre de la famille, c'est-à-dire moi-même. Parce que finalement, moi, je suis le plus élevé, le plus important, la personne à qui ça doit revenir de droit. Eh bien, on a le Midrash qui nous explique que... toute l'histoire de Korach et de sa révolte est très intéressante. Si on la lit, je vous engage à la lire dans le texte et à lire aussi le commentaire de Rashi. Parce que Rashi dit, d'ailleurs il annonce tout de suite, il dit toute cette histoire est très bien racontée, très bien décrite dans le Midrash Tanhuma. Et donc il va suivre un petit peu l'explication de Midrash Tanhuma sur tout ce chapitre. Rashi et le texte nous dit que Korach, alors je lis les versets, Vaikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Levi, Vedatan va Aviram ben Eliav, Veon ben Pelet ben Reuven. Donc Korach a pris, ça veut dire il a essayé d'attirer par des paroles. C'était quelqu'un qui avait du charisme, qui était un tribun, qui était capable d'avoir un discours convaincant, et donc il a pris, il avait un but, hein, c'était d'être Cohen à la place d'Aaron, d'accord ? Il veut être calife à la place du calife, donc il veut être Cohen à la place d'Aaron. Mais évidemment qu'on ne peut pas venir vouloir destituer Aaron comme ça. C'est pas possible. Tout seul, il y arrivera jamais. Donc, il faut bien qu'il essaye de fédérer autour de lui toutes sortes de personnes. Et en vérité, il va fédérer, c'est un petit peu la convergence des luttes, la convergence des mécontents, c'est l'union, c'est une union, hein, c'est un petit peu un bric-à-brac hein, de contestataires, de velléitaires comme ça, qui viennent pour se plaindre, pour fomenter une révolte, mais chacun vient à des motifs différents. En vérité, ils sont pas tous unis dans leur volonté de vouloir. Enfin, c'est pas. Ils sont tous unis dans leur volonté de renvoyer Moshe Aaron de leur place. Ça, c'est sûr. Ils ont la haine de Moshe Aaron. Mais ils sont pas tous unis. Ils ont pas tous les mêmes motivations. Et c'est intéressant parce que on a Korach qui vient de la tribu de Lévi. Donc lui, c'est parce que il est au degré le plus élevé, il est juste en dessous du Kohen Gadol et du roi du peuple d'Israël. Donc il se dit, bah moi je voudrais être à leur place parce que je peux pas, j'ai tout, mais si je suis pas à leur place, je suis pas heureux. Ensuite il y a Datania Aviram. Alors Datania Aviram, on va pas faire tout un cours dessus parce qu'on pourrait. Datania Aviram, c'est deux compères terribles qui suivent Moshe depuis l'Égypte, depuis le moment où Moshe quitte le palais de Pharaon et qui commence à s'intéresser au destin de ses frères hébreux, ils sont là sur sa route. Et ils vont pas le lâcher. Ils vont pas le lâcher jusqu'à cet épisode, jusqu'à notre paracha, où il meurt de manière effroyable. Mais à part ça, on les retrouve. Dès qu'il y a des coups fourrés, dès qu'il y a quelque chose de tordu, ils sont là. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ils sont là tout le temps, derrière? Alors eux, leur problème, c'est pas Aaron, mais c'est Moshe. Ils aiment pas Moshe, ils ont quelque chose avec Moshe. On va pas rentrer dans le sujet. Mais voilà, ça c'est Datan Aviram. Et alors eux, c'est Béné Eliav, d'accord? Ils viennent de la famille d'Eliav, de la tribu de Réhouven. Et Han Ben Pelet, de la tribu de Réhouven. Donc on a la tribu de Lévi et la tribu de Réhouven. Pourquoi la tribu de Réhouven est sensible au discours de Korach? C'est parce que quelque part, la tribu de Réhouven, c'est la tribu du fils aîné de Yaakov. C'est la première des 12 tribus. Et quelque part, il y en a certains qui ont mal avalé la pilule du fait que la tribu qui est choisie pour faire le service du Mishkan, eh bien, c'est pas la tribu aînée, c'est pas les aînés, parce que normalement, ce sont les aînés qui sont consacrés au travail au travail saint. Mais finalement, Réhouven s'est un peu discrédité. Puis finalement, tous les aînés se sont discrédités, ne peuvent pas accomplir ce travail. C'est la tribu de Lévi qui est choisie à la place. Donc, quelque part, ils ont un ressentiment contre ça. Et c'est pour ça que il y a pas mal de membres de la tribu de Réhouven qui vont faire partir de cette rébellion. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi du fait que si vous regardez un plan du campement des Béné Israël dans le désert, vous vous rendrez compte que la famille de Kehat, donc dont fait partie Korach, campe juste à côté de la tribu de Réhouven. Ce qui fait dire aux sages qu'il faut faire attention un peu à nos voisins. Quand on a quelqu'un qui est négatif, eh ben, il peut nous entraîner aussi dans le négatif. Et donc, cette influence, enfin, ces fréquentations un peu malheureuses vont faire qu'il y a une révolte. Et Korach va les prendre, il va les prendre par des paroles. Il va avoir une argumentation en leur disant, écoutez, notre revendication, c'est quoi? C'est Rav Lachem. C'est trop pour vous ce que vous avez pris à Aaron et Moshe comme responsabilité et comme honneur. Ki chol ha'eda kulam kedoshim. Parce que toute l'assemblée, tout le monde est saint. On s'est tous tenus au pied du mont Sinaï. On est tous un peuple saint. Alors pourquoi vous, ou madoua titnas'u al-kehal Hashem, et pourquoi vous vous élevez au-dessus, pourquoi vous auriez un statut particulier au-dessus du Kehal Hashem, de l'assemblée de Dieu, de la communauté de Dieu? En fait, ils utilisent un argument. Bah, je sais pas, moi, écoutez les campagnes aujourd'hui, les campagnes politiques, il n'y a que ça. Ça veut dire l'argument égalitaire. On est tous pareils. Pourquoi il y aurait une élite? Pourquoi il y aurait des gens qui se permettraient de décider pour nous, etc.? Alors, on pourrait penser que ce sont des anarchistes, vous comprenez? Nous, on est tous égaux. Il y a personne qui doit diriger. On est dans, voilà, c'est qui se permet. On a tous été au pied du Mont Sinaï. On est tous des hommes saints. On est tous très intelligents. On est tous égaux devant Akadosh Baruch Hu. Et on est tous égaux devant les hommes. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait certains qui prennent plus de pouvoir que d'autres. Alors cet argument peut s'entendre. On peut se dire, ah bah c'est vrai, c'est juste ce qu'ils disent. Bon, maintenant, avec quand même quelques millénaires de recul dans l'histoire, on sait très bien que tous ces discours-là d'égalité parfaite et puis de dire, voilà, nous, notre combat, c'est pas notre combat personnel. Hein. Nous, on n'a rien à gagner de tout ça. Ce qu'on veut, c'est juste que tout le monde soit chef, que tout le monde soit égal. Parce qu'on est tous des hommes saints. Effectivement, ça aurait été joli si c'était ça. Sauf qu'on sait très bien que la motivation de Korach, c'était pas de revendiquer le pouvoir pour tous les bénis Israël, certainement pas. C'était de prendre le pouvoir lui à sa place. Donc évidemment qu'on va utiliser des arguments égalitaires parce que c'est très démago de dire ça et c'est comme ça on gagne des points dans les sondages. Mais finalement, il n'y a qu'une recherche qu'une aspiration au pouvoir et à la gloire. Et donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Sauf que bon, le discours, il fonctionne. Il a fonctionné à l'époque et continue à fonctionner aujourd'hui encore, parce qu'il y a des gens qui tombent encore dans le panneau de ce genre de discours politique. Et donc, les Rachamim nous disent qu'il y a quelque chose de très intrigant. C'est qu'au début de la révolte, on a Korach, on a Datan et Aviram, on a On Ben Pelet, donc cet homme-là qui s'appelle On Ben Pelet, qui fait partie de la tribu de Reuven, et puis on a 250 grands personnages, des gens qui font partie de l'élite du pays. Les sages nous disent ils étaient 250 membres de Sanhédrin. C'était des chefs de Sanhédrin, de tribunaux. Donc c'était des personnes qui étaient respectables, respectées, que tout le monde voilà, dont tout le monde connaissait la grande valeur. Et tous ces hommes-là viennent revendiquer la place finalement de Moshe et Aaron. Très vite, en vérité, on comprend que la revendication de Moshe, de Korach, et d'ailleurs tout l'argumentaire qu'il va mettre en place, c'est un argumentaire qui va être fallacieux, qui joue sur des mots. Il va voir Moshe habillé, lui et toute son assemblée, avec des talits qui sont complètement faits d'azur. Et il dit à Moshe, puisque dans la Torah, c'est marqué qu'on doit mettre dans les tzitzit un fil d'azur, alors si on a un talit qui est complètement en azur, est-ce qu'on doit mettre un tzitzit en azur? Et donc Moshe va lui répondre que oui, puisque peu importe quelle est la couleur du talit, le plus important, c'est de respecter que parmi les fils, il y ait un fil d'azur. Et donc évidemment, lui, ce qu'il cherche, c'est juste à ridiculiser Moshe et à lui dire voilà, tu cherches, tu dis des choses qui sont fausses, et puis c'est toujours cette idée d'égalité, tout est en azur, et pourquoi il faudrait qu'il y en ait un, qu'il y ait quelque chose de différent. Alors, donc ces arguments sont fallacieux, ces arguments cherchent à tourner Moshe au ridicule, mais il y a quelque chose d'intrigant quand on lit le texte, c'est qu'on voit qu'au début de la révolte, on a cet assemblage assez hétéroclite de Datan, Aviram, Korach, On Ben Pelet et les 250 personnes. Et à la fin, lorsque l'on va voir qu'ils vont être punis, alors Korach et Datan et Aviram sont avalés par la terre. Hein, eux et leurs femmes et leurs enfants sont engloutis vivants dans la terre. Et puis les 250 membres de cette assemblée vont être brûlés par l'encens que Moshe va leur demander d'apporter puisque eux veulent prendre la place du Kohen Gadol. Alors il leur dit, bien, soyez comme un Kohen Gadol et apportez de l'encens comme lui. On verra si Hachem accepte votre encens. Sauf que qu'ils ont été brûlés par cet acte-là, par ces encens qu'ils ont apportés. Et donc, on se rend compte qu'il y a un personnage qui disparaît au fil de l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire. Et à la fin, quand tout le monde est puni, il y en a un qui n'est pas puni, c'est On Ben Pelet. C'est ce fameux On Ben Pelet. Et donc, on se demande, mais où est-il passé? Que s'est-il passé avec lui? Les Chachamim se posent la question, et le Midrash, la Gemara, évidemment, ne sont pas en reste, et nous disent au sujet de la de Hun Ben Pellet, si il n'est pas dans la punition, c'est qu'en fait, lui, à un moment ou à un autre, il a été dissuadé de continuer à faire partie de cette rébellion. Et par qui a-t-il été dissuadé ? Par sa femme. Et de là, les Chachamim nous disent, en reprenant un verset de Michelet des Proverbes, qui nous dit, c'est au Proverbe chapitre 14, verset 1, qui nous dit « Chachmot nashim banta beita ve'ivelet beyadea te'arsenu » L'intelligente des femmes construit sa maison, mais la sotte, l'idiote, la détruit de ses propres mains. Dans notre paracha, on a deux femmes. On a deux femmes. On a la femme de Korach et on a la femme de Hun Ben Pellet. L'une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Le Midrash nous dit que ce verset-là s'applique à ces deux femmes. La femme intelligente qui a construit sa maison, c'est la femme de Hun Ben Pellet. Et la femme sotte qui a détruit de ses propres mains cette maison, eh bien, c'est la femme de Korach. L'une va entraîner son mari et toute sa clique dans un des drames les plus terribles que le Tanakh connaisse. Et la seconde sauve son mari, elle se sauve elle-même et elle sauve toute sa descendance. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le texte nous dit que la femme de Korach, évidemment, c'est une femme qui est extraite elle-même de la noblesse. Je vous ai dit que Korach, c'était un homme qui venait d'une famille noble, qui était très riche, qui était très intelligent. Donc, on imagine qu'il s'est marié avec une femme qui était en rapport. Et elle venait certainement aussi d'une très belle famille, d'une très grande famille. Et un soir, elle voit son mari revenir à la maison, tout chauve, tout rasé, sans la barbe. Il lui restait plus un poil sur le, pas que sur le caillou, mais sur tout le corps. Et ce soir-là, c'était après l'investiture des Lévi'im. Quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, eh bien, on a eu une cérémonie d'investiture où les Kohanim, les prêtres, devaient prendre les Lévi'im et les balancer comme ça. C'était comme une manière de les rendre aptes au service du Mishkan, comme si ils étaient là d'abord non aptes au service du Mishkan, et le fait de les prendre et de les balancer, c'était les investir, les faire entrer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau service, dans ce nouveau travail. Et donc, un petit peu comme ce qu'on faisait avec les corbanotes pour les sacrifices. Et aussi, Moshe, et c'est Dieu qui lui a demandé, que tous les Lévi'im, que tous les prêtres, soit complètement rasé. C'est arrivé une seule fois, c'était qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas rasés en permanence, mais ce jour-là, le jour de l'inauguration, de leur investiture, ils ont été rasés totalement. Alors pourquoi ? Bon, pour des raisons un peu kabbalistiques, en fait, le Kohen, c'est l'homme du chesed, c'est l'homme de la bonté. On en a déjà parlé de Aaron qui essayait à tout prix de faire la paix en permanence, qui recherchait la paix, qui la poursuivait en permanence. Donc l'homme, c'est le Kohen, c'est le chesed. Et le Lévi, c'est celui de la rigueur. D'accord ? C'est l'homme de la rigueur. C'est ce qu'on appelle un homme de gvura, de gvurot. D'accord ? Et pourquoi le travail du Lévi, c'est un travail qui va du bas vers le haut. Il sert Hachem un peu comme le feu. C'est d'aller du bas vers le haut. Les Lévim, ils chantent, ils font monter leur chant vers Hachem. Ils prient, ils font monter la prière du bas vers le haut. Ils s'élèvent par la force de leur désir et de leur soif de sainteté. Ça, c'est la Gvura. Le cheveu, dans la Kabbalah, dans la mystique, ça représente la Gvura, le din, le jugement, la justice, la sévérité. Et donc, il est question de... Comme si le cheveu, ça réduisait quelque chose, ça réduisait... Ça réduisait, c'était des contractions de sainteté. Et si ces hommes, qui sont des hommes de Gvura, ont en plus le cheveu au-dessus de leur tête, alors ça rajoute de la Gvura à la Gvura, et ça fait trop. Et ça risque d'entraîner, de désagréger toute cette Gvura vers une sorte d'impureté. Et c'est pourquoi Moshe leur demande de se raser entièrement la tête. Alors, c'est inaugural, hein, c'est pas quelque chose qu'ils vont devoir faire tout le temps. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils rentrent comme ça à la maison ce jour-là. Et sa femme, elle le voit arriver comme ça. Mais le même jour, Aaron est justement lui aussi investi dans sa fonction de Kohen Gadol. Et lui, il arrive, vêtu de ses 8 vêtements de grand prêtre, avec sa barbe, nous dit, dans le Tehilim, on nous dit « Zekada Aaron sheyored al pi midotav » la barbe d'Aaron qui descendait, qui était complètement son visage, enfin son, il était enduit de l'huile d'onction qu'il avait, avec lequel on l'avait oint pour l'introduire dans son rôle de Kohen Gadol. Et donc lui, il arrive avec cet apparat, avec cette prestance, etc. Et donc évidemment que la femme de Korach, qu'est-ce qu'elle fait? Alors évidemment, au lieu d'être un peu intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit ça, elle sort les choses de leur contexte, et elle pose une question à son mari. Elle lui dit, pourquoi toi et pas lui? Pourquoi toi t'as été rasé et pas lui? Pourquoi, en fait, Moshe a voulu vous ridiculiser, il a voulu vous avilir. Enfin, voilà, regarde de quoi t'as l'air, et regarde lui de quoi il a l'air. Alors, vous allez me dire, voilà, ça veut dire, c'est la femme ivelette, c'est la femme sotte qui détruit tout de ses propres mains. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle connaît les faiblesses de son mari, cette femme. Elle sait que son mari a besoin de reconnaissance, d'ailleurs comme tous les hommes entre nous. Et nous aussi, les femmes d'ailleurs. On a besoin de reconnaissance. Elle connaît sa faiblesse. Elle sait que c'est un homme, si c'est un homme qui a tellement cherché la richesse, qui a cherché à prendre, à ramasser l'argent... C'est quelqu'un qui a cherché, qui étudie, qui est brillant. C'est quelqu'un que tout le monde admire parce qu'il est waouh. Vous comprenez, il est au sommet de la hiérarchie. Donc elle sait très bien que au fond, si elle va un petit peu exciter sa jalousie, il va tomber dans le panneau. Donc elle connaît sa faiblesse et en lui posant cette question, elle va entraîner une cascade de conséquences, une cascade d'événements qui vont entraîner une tragédie terrible. C'est-à-dire qu'à cause de ça, eh bien lui, tout d'un coup, se dit « Mais oui, pourquoi lui? Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? On est tous égaux. Après tout, moi aussi, je peux atteindre ce niveau. » Le rabbi de Lubavitch, il dit quelque chose, il explique les choses comme ça, il dit que la femme de Korach, c'était une femme qui était très intelligente. C'était une femme qui connaissait très très bien les qualités de son mari. Elle savait que son mari, c'était un homme exceptionnel, que c'était un homme qui était au-dessus du lot. Et elle connaissait le yichus de son mari, elle connaissait ses immenses atouts. Et en fait, elle était tellement persuadée. Enfin, c'est vrai, c'est bien de connaître les qualités de son mari et de les mettre en avant, effectivement. Mais elle se disait que toutes ces qualités exceptionnelles qu'il avait, eh bien, les responsabilités qu'il avait, la place qu'on lui donnait au sein du peuple, ne lui permettaient pas d'exprimer complètement son potentiel. Et quand on lui demandait, mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu considères que c'est pas assez pour lui? Eh bien... on lui disait, mais tu sais que Moshe émet, Vetorato émet, que Moshe c'est la vérité et sa Torah c'est la vérité. Quand Moshe vient dire à Aaron de prendre le rôle du Kohen Gadol, c'est Hachem qui lui a demandé de le faire. Donc il n'a pas fait de sa propre initiative, c'est pour réaliser une volonté de vérité d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux remettre ça en question? Mais elle était si aveuglée par les qualités de son mari quelque part et ses aptitudes qu'elle a éveillé en lui un sentiment d'orgueil. Un tel sentiment qui a été pour lui comme une sorte de corruption. C'est-à-dire qu'elle lui a donné quelque chose, quelque part, de le conforter dans ça et d'aller plus loin encore dans cela en lui disant « Mais pourquoi lui et pas toi ?» ou « Pourquoi toi et pas lui ?» elle a créé une sorte de corruption intellectuelle. Et le texte nous dit que le texte dans la Torah nous dit que Ashochad me'aver ene chachamim, que le shochad, la corruption, quand on donne un cadeau à quelqu'un qui est juge, eh bien ça pervertit complètement cette personne. On est bien d'accord, hein, que c'est le propre même de la corruption. Et c'est-à-dire que ça aveugle les yeux des chachamim, d'accord? La corruption, ça aveugle les yeux des chachamim. Et la corruption, c'est pas toujours de donner un cadeau en nature, de donner de l'argent ou de donner une maison ou de donner je ne sais pas quoi, de virer des choses sur un compte en banque en Suisse pour obtenir un droit de construction en bord de mer. C'est pas toujours ça la corruption. La corruption, ça peut être aussi un compliment, ça peut être de la flagornerie, vous comprenez ? C'est ça aussi la corruption. C'est amener l'autre à avoir un jugement qui est tordu, qui est faux sur lui-même, parce qu'on lui aura donné quelque chose qui ne doit pas lui revenir de droit, finalement. Et cette femme-là, elle avait un mari qui avait effectivement, qui était un homme brillant, mais il a reçu ce chochad, il a été comme corrompu par cet argument qu'il avait des qualités qui étaient véritables et exceptionnelles. Mais puisque, au nom de ces qualités qui étaient véritables et exceptionnelles, sa femme allait un petit peu plus loin et éveillait en lui l'orgueil et la volonté de prendre la place qui ne lui revenait pas, la place de Aaron. Donc, elle a entraîné que toute son intelligence est tombée à l'eau. C'est-à-dire qu'il a perdu, il a utilisé son intelligence pour avoir un discours démagogique et pour fomenter sa révolte. Mais en fait, il n'a plus été capable de voir la réalité. À un moment, il était avancé beaucoup trop loin dans sa révolte pour être capable de revenir en arrière. En fait, il avait perdu tout sens du jugement. Tout ça, il a été complètement corrompu par ce que sa femme lui a dit. Elle lui a monté la tête au lieu de le raisonner, justement. Et c'est pire encore, parce que la femme de Korach est accablée comme étant celle qui a mis les graines de ce sentiment, de ce ressentiment. Comme si lui, peut-être, il serait passé à côté de ça, mais elle a juste appuyé là où ça faisait mal. Et ça, quelquefois, c'est des choses que le conjoint, c'est celui qui connaît le mieux son partenaire et qui peut justement, qui mieux que tout le monde peut aller exciter quelque chose de négatif ou de destructeur parce que il ouvre quelque chose qui est douloureux mais qui était un peu dans l'intime, qui était dans le non-dit, que la personne ne se l'avouait pas, mais elle quelque part elle lui permet de faire sortir ça à l'extérieur de lui-même, et c'est terrible, et c'est pour ça qu'elle est accablée par les textes qui nous disent que c'est elle dont Shlomo Ameler parle dans les Proverbes, qui est la ivelette, qui est la sotte, qui détruit sa maison de ses propres mains. Donc on s'imagine cette maison extraordinaire qu'elle avait, ce statut extraordinaire, la richesse, le pouvoir, le statut de Léviïm très important qui revenait à lui et à ses enfants aussi, à sa descendance. Elle a tout détruit de ses propres mains. Ça veut dire qu'elle a pris tout et elle a tout écrasé. Donc ça, c'est la femme de Korach. Maintenant, on a en face de ça, on a une autre femme. On a la femme de On ben Pelet. Et ça, c'est assez passionnant de voir ce que nous dit le Midrash sur la femme de On ben Pelet. La femme de On ben Pelet, alors c'est la femme Chochmat Nashim ben Tabeita. C'est la femme intelligente qui construit sa maison. Comment elle a fait ? La femme d'On ben Pelet, elle voit son mari revenir à la maison. D'énergie, plein de révolte. Enfin, vous imaginez quand il y a un combat politique. Alors, on voit, c'est ceux qui suivent les informations en Israël, vous voyez ce qui se passe. C'est toutes les 10 minutes, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est un feuilleton sans fin. Mais il y a des luttes de pouvoir, il y a un assemblage hétéroclite qui veut créer un parti d'union, entre guillemets, mais l'union, elle a pour but uniquement de faire tomber ceux qui sont déjà là au pouvoir, de prendre la place de ceux qui sont là, et c'est des combats personnels, et c'est des haines qui sont ressassées depuis longtemps, etc. Il y a le bien du public n'est plus tellement le souci principal des hommes politiques quand on arrive à ce niveau-là. Et on le sent, on le voit, on entend dans les discours, c'est trop évident. Mais, et c'est exactement ce qui se passe avec Korach. Korach, lui, utilise un discours égalitaire pour dire on est tous égaux. Sauf qu'en vérité, son seul but, c'est lui de devenir le chef. Donc, si lui devient chef, les autres ne seront pas plus égaux que quand c'est l'époque de Moshe. Sauf que personne s'en rend compte. Les gens, ils sont tous séduits par ce message, par ce slogan. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous égaux. Sauf que le jour où Korach sera au pouvoir, eh bien, ils seront plus du tout, ils seront pas plus égaux que quand ils sont sous le règne de Moshe. Donc, on a cette femme de Hon Ben Pellet. On ne connaît pas bien les motivations de Hon, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fait partie des comploteurs au départ et que forcément, sa femme les a entendus fourbir les arguments. On imagine qu'il y a eu des réunions de parti, des réunions entre eux. Peut-être ça s'est tenu chez eux, chez les autres, etc. Elle a entendu bruire toute cette révolte, un peu se fomenter. Et parce que, en fait, les révoltés vont mettre en place... Vont user et abuser de toutes sortes de démagogies, d'arguments démagogiques envers le peuple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La femme donne, elle sent ça, et la femme donne, c'est une femme qui est pleine de émouna, qui a pleine de foi. Elle fait partie des femmes de cette génération. Si la femme de Korar est suffisamment notoire pour être vraiment la femme qui sort du lot, parce qu'elle a entraîné son mari dans la catastrophe. Et d'ailleurs, la punition qui va tomber sur Korar et sur ses acolytes, elle est terrible parce que, alors que d'habitude, quand Dieu punit, il punit que la personne qui a fauté, les enfants ne vont pas payer pour les parents. Eh bien, quand la terre va s'ouvrir, elle va aussi avaler les bébés, les nourrissons, ce qui est inédit dans l'histoire dans ce qu'on voit dans le Tanakh. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de... La femme de Korar, elle a entraîné quelque chose qui va toucher jusqu'au plus profond de l'identité de ces familles-là, qui va les pourrir, en fait, et qui va faire que ces familles n'ont pas vraiment de devenir, même si dans le Midrash, on voit qu'il y a des fils de Korar qui ont fait tchouva et qui seraient revenus de la... au dernier moment, qui se seraient retirés de cette révolte et donc qui auraient eu une pérennité. Mais Hon Ben Pellet, eh bien, le Midrash nous raconte, c'est assez intéressant, il nous dit que Hon Ben Pellet, lui, il était quelque part, c'était un idéaliste, c'était quelqu'un qui était convaincu par l'argumentation de ces hommes. C'était pas quelqu'un qui était mauvais, c'était pas quelqu'un qui voulait le pouvoir pour lui-même. Mais vraiment, il avait foi, enfin, il croyait dans ces messages d'égalité, nous sommes tous égaux, nous pouvons tous être au pouvoir. Vous savez, comme vous avez beaucoup de gens qui peuvent même faire partie de mouvements anarchistes ou de toutes sortes de philosophies comme ça égalitaires, mais vraiment en étant complètement entier philosophiquement dans cette façon d'appréhender les choses. Et donc, lui, il y croit vraiment. Mais sa femme, elle y croit pas. Sa femme a beaucoup plus de recul. Elle fait partie de, comme je vous dis, des femmes de cette génération qui ont, en Égypte, ont cru au moment où tout le monde croyait qu'on allait rester pour l'éternité et mourir pour toujours là-bas. Elles ont cru dans le fait qu'il fallait continuer à avoir des enfants, qu'il fallait continuer à se projeter, qu'il fallait continuer à avoir confiance. Elle fait partie de ces femmes qui, en sortant d'Égypte, ont emmené leur tambourin avec elles parce qu'elles étaient sûres qu'elles allaient devoir danser et chanter parce que pour fêter cette délivrance. Elle fait partie de cette génération de femmes qui n'a pas fauté au veau d'or, de cette génération de femmes qui ne s'est pas plainte dans le désert à chaque fois. Elle fait partie de cette génération de femmes qui n'ont pas participé à la faute des explorateurs. Donc, elle fait partie, elle est la quintessence des femmes de cette génération, comme Myriam, comme Elisheva dont on a parlé, comme Yochevet, comme toutes ces femmes qui ont confiance en Akadosh Baruch Hu, et donc, elle ne se laisse pas aveugler. Sauf que comment alors que son mari rentre complètement enthousiaste et transporté par ses idées et qui s'est engagé, qui fait partie de ce projet, waouh, il est plein de feu, comment est-ce qu'elle va réussir à le calmer? C'est très compliqué quand même. Parce que si elle commence à lui dire « mais non, n'importe quoi, il faut écouter Moshe, etc. », évidemment qu'il ne va pas l'écouter. Il ne va pas l'écouter parce que il est pris dans un projet révolutionnaire, d'accord ? Dans le feu de la révolution, aucune voix sensée, aucune voix calme, rien du tout ne peut apaiser cela. Et surtout quand il y a ce feu de la révolte et de la rébellion et du fait de vouloir chasser le pouvoir qui est en place, parce qu'on veut l'accabler de toutes les difficultés qu'on ressent dans notre vie, évidemment que lui, il y croit, il se dit waouh, voilà, on a de l'espoir, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, comment elle va réussir à le convaincre? Comment elle arrive à faire passer le message? C'est pas si évident, c'est pas très facile. Alors, on pourrait penser qu'elle va avoir un débat philosophique avec lui, qu'elle va commencer à essayer de lui démontrer les choses par A plus B. Elle va, en fait, elle reprend le slogan, en fait, elle reste très simple, elle est très intelligente, cette femme. Elle reste simple. Son mari lui dit puisqu'on a dit que le slogan, c'était « Nous sommes tous égaux ». Très bien. Elle lui dit « Très bien, on est tous égaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es par rapport à Moshe ? Tu es son élève. Tu as un statut inférieur. Tu es l'élève de Moshe. Si demain, c'est Korar qui devient le maître, si c'est lui qui devient le chef demain, qu'est-ce que tu seras demain ? Tu seras aussi son élève. Donc, qu'est-ce que tu as gagné, toi, dans cette histoire ? Tu seras l'élève de l'un ou l'élève de l'autre. Donc, quel est ton intérêt ? Tu te rends pas compte que tu es instrumentalisé dans tout ça ? Alors, ça commence un petit peu à rentrer dans sa tête, puisque lui, son argument, c'était l'argument égalitaire, mais finalement, il est en train de prendre conscience que, en fait, ça n'a d'intérêt que de servir les intérêts de Korar. Donc, il se dit, oui, finalement, quel intérêt j'ai à rentrer dans cela ? Alors, la femme de sa femme, elle a fait mouche. Sauf que, lui, il dit, et comme c'est un homme de parole, c'est un homme droit, on a dit que c'est un idéaliste. Donc, il dit, oui, mais moi, j'ai donné ma parole. Je me suis engagée. J'ai dit que j'allais faire partie de ce groupe-là, que j'allais revendiquer les choses, que demain, je vais me présenter avec toute cette assemblée devant Moshe et Aaron au Mishkan pour qu'on fasse la démonstration comme quoi nous sommes tous égaux. Et j'ai dit dans les réunions de coalition que j'étais avec eux. Comment je peux partir comme ça ? Et là, sa femme lui dit, tu sais quoi ? Reste tranquille, c'est moi qui vais gérer. Voilà encore une étape supplémentaire. Ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant qui se passe quand on assiste à un mariage. Il y a des coutumes, surtout chez les Ashkenazim ou chez les Chassidim, que la kala, elle fait le tour, elle tourne autour du khatan. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des roupotes, que la kala, elle tourne, alors elle fait 7 tours ou bien 3 tours en fonction des coutumes. C'est surtout, je vous dis, pas tellement chez les Sfaradim, mais plutôt chez les Ashkenazim. Et elle tourne autour du khatan. Alors c'est intéressant, c'est quoi cette idée de la kala qui tourne autour du khatan ? Eh bien, la raison pour laquelle la kala fait ça, c'est parce que en tournant autour du khatan, c'est comme si elle construisait, comme si elle créait une sorte de muraille de protection autour de son mari. Alors nous, on a souvent dans l'idée que c'est le mari qui protège la femme. Hein. Mais dans la pensée juive, et dans la tradition juive, la femme, c'est elle qui protège son mari de toutes les influences négatives de l'extérieur. Elle est comme une muraille, elle est comme une forteresse qui va protéger sa pureté, sa sainteté, son âme. Et donc, finalement, ce qu'on considère ici, c'est que la femme, elle est beaucoup plus puissante. Je vous ai dit, de toute façon, la femme, elle représente un peu la gvoura, la rigueur. Elle est celle qui permet de protéger, finalement, de protéger sa famille et son foyer et son mari. Et donc, ici, la femme de On Ben Pelet lui dit, tu sais quoi, je vais faire mon rôle protecteur. Alors, elle prend son mari, elle lui donne à boire du vin, il s'enivre et il s'endort. Elle le neutralise. En fait, elle ne le fait pas à son insu. Il sait qu'il est en train de boire. Mais quelque part, elle lui a dit, écoute, repose-toi. Reste tranquille. C'est moi qui vais gérer la situation. C'est vrai que ce n'est pas possible pour toi. Tu n'as pas les forces. Et c'est là qu'elle est brillante, cette femme. Et je trouve que c'est très psychologue. C'est-à-dire que quelquefois, quand on voit que quelqu'un, qu'un proche, qu'un enfant, etc., sont sur une voie qui n'est pas la bonne, mais qui n'arrivent pas à en sortir, bah, quelquefois... On peut pas les laisser aller au bout de la chose et essayer et trouver la solution pour s'en sortir tout seul. Quelquefois, c'est pas possible. Alors, dès lors qu'il y a cette relation de confiance où l'autre prend conscience qu'il s'est mis dans de beaux draps, mais qu'il n'arrive pas à en sortir tout seul, et si nous, on a suffisamment de recul pour pouvoir être en paravent et protégé, bah, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi laisser l'autre se dépatouiller tout seul ? Là, cette femme, elle prend les choses en main. C'est vraiment la guerrière, mais dans le sens très positif, où elle prend et elle protège son mari et elle dit, c'est moi qui vais gérer cette situation. Et donc, elle prend, son mari va s'endormir, elle le couvre, elle le met sur le, elle le laisse, enfin, le, il se couche, elle, il est couché sur le lit, elle le laisse à l'intérieur de la maison, histoire que qu'il soit pas désarmé, qu'il soit pas face à la puissance au feu de la révolte et que même s'il est convaincu de ce que sa femme lui a dit, qu'il puisse pas s'en sortir. Et elle se met devant la tente. Et le Midrash nous dit qu'elle se découvre la tête. Elle se découvre les cheveux. Et elle enlève son kissouille roche, quoi. Et elle se met devant sa tente et elle commence à coiffer ses cheveux. Alors, évidemment, c'est quelque chose de très puissant. Moi, j'adore, en fait, quand on réfléchit à ce qui se passe dans cette histoire. C'est-à-dire que cette femme, elle coiffe ses cheveux. Elle utilise, finalement, quelque chose d'imparable. Et pourquoi c'est imparable ? Parce qu'en fait, quand elle se découvre les cheveux, le Midrash nous dit que tous les hommes, les comparses de la révolte viennent chercher On Ben Pelet le matin pour aller mener la révolte. Sauf que à ce moment-là, il voit qu'elle est devant sa tente avec la tête découverte. Et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être en train de remettre en cause l'autorité de Moshé d'Aaron, mais en fait, c'est des très grands tzadikim, c'est des très grands chachamim. Une femme qui a la tête découverte, ils ne vont pas s'en approcher. Donc, eux, ils s'approchent, ils voient au loin une femme qui n'a pas la tête couverte, donc ils se disent, c'est des tzadikim. Alors, c'est intéressant, il y a beaucoup de commentateurs qui disent ça, ils disent, ce sont des gens qui font attention à la tzniout à l'extérieur, au fait que s'il y a une femme qui a la tête pas couverte, ils vont pas s'approcher de la tente, parce que à l'époque c'était quelque chose qui était inenvisageable, et pourtant ils sont en train de remettre en cause l'autorité de Moshé et la réalité et la véracité de la Torah, puisque l'autorité de Moshé et d'Aaron, elle est liée au fait que c'est Hachem qui leur a dit de prendre ses responsabilités. Donc en fait la femme de On Ben Pelet va les faire fuir. Mais quelque part, en agissant de cette manière, ce qui pourrait nous sembler choquant, nous, parce que est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la halakha, qui est interdit de se présenter d'une manière qui est contradictoire avec la halakha, même si c'est dans un but positif. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Ici, les certains commentateurs et certains analystes disent que finalement, la femme de On Ben Pelet, elle cherche à mettre ses hommes devant leurs contradictions. Elle dit, vous dites que tout le monde est saint ? Ah bon ? Vous dites que tout le monde est saint ? Mais d'où vient cette sainteté ? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle vient de la Torah, elle vient de ce que Hachem a dit. Alors, vous êtes choqués parce que moi, je n'ai pas la tête couverte, parce que extérieurement, eh bien, c'est un problème, je ne respecte pas la tzniout, mais vous, à l'intérieur, est-ce que vous êtes sensible à ce que c'est que véritablement la kedusha ? Est-ce que la kedusha, c'est une apparence ? Est-ce que c'est seulement quelque chose d'extérieur ? Ou il faut qu'il y ait une cohérence avec l'intérieur ? En fait, elle les interpelle. Eux, ils n'ont pas compris le message, et ils sont vite partis, ils ont dit, c'est tant pis, on renonce à On Ben Pelet, et ils sont partis, et la femme de On Ben Pelet, eh bien, elle a sauvé son mari de cette manière, finalement. Elle l'a sauvé parce qu'eux sont allés, ils ont fait cette opération où tous ces 250 hommes ont offert des encens, alors que c'était le travail, normalement, d'Aaron, et ils ont été brûlés. Les 250 hommes ont été brûlés. Korach, Datan et Aviram et toute leur famille ont été avalés par la terre. Et donc, ça a été la tragédie. Et la femme de On Ben Pelet, eh bien, elle a tout simplement sauvé son mari de la mort. Donc, si vous voulez, ces deux femmes-là, la femme de On Ben Pelet et la femme de Korach, elles sont très, je pense, très représentatives de l'usage que les femmes peuvent faire de leur voix. Je ne pense pas forcément aux femmes intrigantes de l'histoire, à ces fameuses éminences grises qui ont bâti des empires et qui ont détruit des royaumes. Toutes ces femmes de la littérature ou de l'histoire de France, par exemple, ces éminences grises qui tenaient salon, qui tiraient toutes les ficelles de l'histoire. Mais il faut réfléchir quelquefois à ce que ça veut dire la voix de la femme. En donnant, quelque part, une voix à la femme d'On, le Talmud nous montre comment les femmes du désert ont réussi à ne pas se laisser emporter par le tourbillon destructeur de leurs alter-ego masculins. Et la femme de Korach était suffisamment unique et rare pour être la seule à s'être distinguée de cette manière aussi catastrophique. Donc, finalement, il y a une une conclusion qu'on pourrait un petit peu, qu'on pourrait amener par rapport à beaucoup de choses qu'on a déjà vues depuis qu'on a parlé de Chava et de cette montée de la féminité. Le verset que je vous ai cité qui parle de ces deux femmes, de la femme de Korach et de la femme d'On, c'est ce verset de Michelet qui nous dit Chochmat Nashim Banta Beta, la femme intelligente, la femme parmi les femmes intelligentes construit sa maison. Rappelez-vous que quand Akadosh Baruch Hu a créé la femme, on nous dit qu'Hachem a pris une côte de l'homme ou un côté de l'homme et Vayiven Basar Tartea. Il a construit de la chair à sa place. La femme, elle est créée avec une idée de construction, Vayiven. Et les Chachamim nous disent c'est intéressant parce que le mot Vayiven nous rapproche du mot Bina. Bina qui veut dire. C'est un niveau d'intelligence, d'accord? La chorma, c'est l'intelligence de premier niveau, c'est l'éclair de compréhension. Et la bina, c'est l'esprit de déduction, c'est la capacité d'avoir un sixième sens, de déduire une chose à partir d'une autre. Et une femme intelligente, c'est une femme qui s'arrête pas au premier degré de compréhension des choses, comme la femme de Korach qui a utilisé son intelligence de manière à attiser la jalousie de son mari parce qu'elle ne voyait que cela, elle ne voyait que l'orgueil, elle ne voyait que le pouvoir qu'elle pourrait avoir. Mais la femme intelligente, Banta Beita, Banta, elle construit dans le sens de tel que Dieu l'a construite à elle avec cette qualité de Bina, cette qualité de finesse, de compréhension. La femme d'On a compris la psychologie de son mari. Elle n'est pas entrée dans un débat intellectuel et philosophique contre lui. Elle n'a pas essayé de démonter tous ses arguments. Elle a pris juste quelque chose qui lui tenait à cœur. Et très gentiment, avec une seule phrase, elle a réussi à calmer ses ardeurs. Et puis ensuite, quand lui a laissé entendre que il comprenait qu'elle avait raison et qu'il se rendait bien compte que c'était un peu ridicule, mais qu'en même temps, il savait pas comment s'en défaire. Eh bien, cette femme-là, elle a construit sa maison, elle a pris en main le destin de sa famille et elle a sauvé sa famille de la destruction qui a touché tous les autres protagonistes de cette affaire. Mais rappelez-vous qu'on avait vu, quand on avait parlé de la création de Chava et qu'on avait dit que Hachem Vayiven, il avait construit la femme, on avait parlé bien sûr de cette bina, du fait que Hachem a donné à la femme un niveau de compréhension différent de celui de l'homme, la bina, d'accord, cet esprit de déduction. Mais on avait dit aussi que, comment le Midrash nous disait, comment Hachem il a construit la femme, c'est que Kala et Seharod Rocha, il a tressé les cheveux de son de sa tête. Rappelez-vous, on avait parlé de cette femme, de cette première Chava qui est la Chava avec les cheveux en pagaille. Ça veut dire ces forces de gvurot, ces forces conquérantes mais qui vont dans tous les sens, qui sont pas disciplinées. Alors que la femme construite, la femme avec la bina telle qu'Hachem l'a construite, c'est une femme qui a les cheveux tressés. Ça veut dire quelque part où il y a de l'ordre qui est fait dans toute cette énergie-là de manière à être constructive. Et quelque part, la femme de On Ben Pelet, quand elle dénoue ses cheveux, elle renvoie un message subliminal à tous ces hommes. Elle leur dit, mais comprenez que ce que vous êtes en train de faire, c'est de détruire vos familles, c'est de détruire le peuple. De la même manière que quand Hachem m'a construite moi, qui suis censée construire ma famille, alors il a fait ses tresses là, il a ordonné tout cela, il a ordonné toute cette énergie, toute cette vitalité de puissance qui pourrait être destructrice. Et là, elle dénoue ses cheveux pour les mettre face à leur incohérence, mais eux n'ont pas compris le message. Mais en faisant ça, du coup, elle a utilisé de manière exacerbée sa bina à elle, son intelligence. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent que Chochmat Nashim Banta Beita, une femme intelligente, c'est elle qui construit sa maison et il s'agit de la femme de On. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous sur ces deux personnages. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'il y a encore d'autres femmes en subliminales dans cette paracha, mais on ne va pas les aborder ici. Si vous avez des questions, je vous écoute.